France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le discours aura duré un peu plus d'une heure devant les députés de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé hier le calendrier des réformes à venir. La date de l'examen de l'extension de la PMA à toutes les femmes est ainsi fixée à fin septembre. Édouard Philippe a également annoncé, entre autres, un bonus-malus pour les entreprises qui ont trop recours aux contrats courts, la remise à plat des aides à la rénovation énergétique ou encore la fin du plastique dans l'administration en France dès l'année prochaine. Le Premier ministre a rendez-vous ce matin devant le Sénat pour un nouveau discours de politique générale. Hier, son gouvernement a reçu la confiance des députés avec 363 voix contre 163. Les actionnaires de Renault ont eux aussi renouvelé leur confiance à Jean-Dominique Senard hier à 91%. Ils approuvent ainsi sa nomination pour 4 ans au conseil d'administration. Le président du groupe automobile s'exprimait pour la première fois hier devant l'Assemblée générale. Il a confirmé que la priorité serait donnée à l'alliance entre Renault et Nissan. L'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouyahia a été placé hier en détention provisoire. Ce proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika avait été limogé en mars dernier. Aucun détail sur les faits qui lui sont reprochés n'ont été donnés. Il est soupçonné toutefois dans une affaire de corruption. Hier également, l'ancien ministre des Travaux publics en Algérie a lui été placé sous contrôle judiciaire. Hong Kong a connu les plus importantes violences politiques depuis sa rétrocession à la Chine en 97. La police a tiré hier des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène sur des manifestants qui tentaient d'entrer dans le parlement de la ville. Ils protestent toujours contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale. Une ingérence de plus de Pékin, disent les manifestants. L'examen du texte a été reporté hier matin. Enfin, notons ces mots de Donald Trump sur la chaîne ABC cette nuit à l'aube d'une campagne présidentielle pour 2020. Le président américain ne refuserait pas des informations fournies par un pays étranger visant à nuire à son opposant lors de l'élection l'année prochaine, comme un écho aux soupçons d'ingérence russe pour le scrutin de 2016.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire de ce numéro d'été, un grand dossier sur la beauté et ses énigmes. La beauté est-elle intemporelle? Le lait peut-il être beau? Papier convoque artistes, philosophes, écrivains et architectes. À découvrir également un entretien exceptionnel avec Jean-Luc Godard, une sélection de 35 films pour comprendre notre époque et un focus sur la Bretagne, jadis au centre du monde. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture. Nous retrouvons Toufik Hakem pour parler musique ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les jeudis, on se réveille en musique dans les petits matins de France Culture. Et aujourd'hui, chanson française au programme avec Maxime Le Forestier. Paraître ou ne pas être, c'est le titre de son album qui vient tout juste de sortir. Bonjour Maxime Le Forestier, c'est un honneur de vous avoir ce matin.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous.
Tout un album sur les temps modernes, mais sans les artifices du Nouveau Monde. Un disque dépouillé, intime, libre, juste avec une guitare. Mais quelle guitare ?
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
De toutes celles que j'ai vues, c'était pas la plus belle. Mais c'est celle qui m'a plu, je suis sorti avec elle. Dans la rue, les gens n'avaient plus le même regard. On n'est pas le même piéton quand on porte une guitare. De toutes celles que j'ai vues, c'était pas la plus chère. Mais c'est celle qui m'a plu, et c'était la première. Comment la faire sonner on verra ça plus tard. On va tout faire péter quand on porte une guitare. Une guitare. Avec une guitare. On n'imagine même pas qu'on aura du plaisir à faire saigner nos doigts pour les faire obéir. Qu'elle finit son musée ou en haut d'une armoire. On a tout à rêver quand on porte une guitare. Une guitare. Avec une guitare.
Avec une guitare, c'est le titre d'un des morceaux de votre dernier album, Maxime Le Forestier. Alors, je ne sais pas si on doit commencer cet entretien par, par les dates anniversaires, si vous voulez dire bon anniversaire.
Merci.
En 1969, vous avez fait paraître vos premiers 45 tours.
Un peu avant même. Ah oui, mes premiers 45 tours tout seul, oui, c'est vrai.
Tout seul.
Avant, on avait fait deux 45 tours avec ma sœur Catherine.
Ouais.
Ah oui, là, c'est vrai, j'étais au service militaire et
20 ans.
20 ans.
Vous aviez 20 ans, ouais. L'année où on a marché sur la Lune, l'année de Woodstock, l'année érotique.
Oui.
Et vous aviez déjà une guitare, bien sûr.
La guitare, j'ai acheté, j'avais 14 ans.
Racontez-nous cette histoire.
Dans ma famille, à cause de grâce à ma sœur Anne, qui est une musicienne classique, on n'écoutait pas de chansons du tout. Notre musique, c'était quelque chose de sérieux. On travaillait 5 heures par jour l'instrument et 2 heures par jour la théorie et les études en plus. C'était assez...
C'est la corvée, non?
Oui. Donc, quand je suis arrivé en sixième, à l'entrée en sixième, soit je faisais comme mes sœurs, c'est-à-dire je travaillais comme une brute et j'essayais d'entrer au conservatoire, soit je faisais autrement et j'ai choisi de faire autrement par flemme. Je suis rentré au collège et j'ai fait du latin et tout ça, et du chant choral, parce que c'était un collège de curés. Et puis, à 14 ans, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, je vais m'acheter une guitare, ce qui n'était pas un instrument très populaire dans la maison, mais en plus je vais apprendre tout seul, sans prof et sans rien. Donc je suis allé place de la Bastille dans un magasin qui vendait des guitares, j'en ai choisi une, je suis sorti, je suis rentré dans le magasin d'à côté qui vendait les partitions, j'ai dit avec mon langage de classicos, qu'est-ce que vous avez comme littérature pour voix et guitare? Et le mec m'a vendu 4 chansons de Brassens, et ma vie a changé.
Voilà, Brassens, qui va vous accompagner toute votre vie, puisque vous avez même décidé de reprendre Brassens. Mais à cette époque-là, quand vous aviez 14 ans, et quand vous aviez cette nouvelle guitare, qu'est-ce que vous faisiez? Vous essayiez de reprendre des airs qui passaient à la radio?
Ah non, j'écoutais pas la radio.
Rien du tout.
Non, j'ai pris les partitions, je les ai lues, je les ai déchiffrées, et je les ai jouées. J'avais fait du violon, hein, donc j'avais une main gauche qui était quand même relativement obéissante, et je savais lire, donc ça suffisait. Moi, c'est pour ça que j'imite pas Brassens quand je le chante, parce que je l'ai lu avant de l'entendre.
Mais je suppose que si vous vouliez vous échapper du monde de la musique classique, de votre famille, c'était pour faire d'autres compositions, d'autres musiques. Comment vous
avez... Je savais pas, j'imaginais même pas que j'allais composer un jour. Non, je voulais apprendre à jouer de la guitare, apprendre tout seul. Et comme j'avais une bonne voix, parce que j'avais aimé, enfin tout allait bien... Mais ceci dit, ce mec qui m'a vendu ces 4 partitions de Brassens, s'il m'avait vendu 4 partitions de Claude François, j'aurais pas eu la même vie. C'est aussi la rencontre avec Brassens qui a fait tout ça.
Donc il a compté dès le début.
Dès le départ.
Première chanson, premier texte, premier refrain, premier pas dans la variété française, pour aller très vite, Maxime Le Forestier.
Oui, à 16 ans. 16 ans, je me suis fait virer du lycée. Et on faisait un duo avec ma sœur Catherine. On a fait le tour des cabarets de la rive gauche. On a eu de la chance parce qu'on a vite rencontré Moustaki, qui était juste connu pour avoir écrit Milord pour Piaf, mais Reggiani n'avait pas encore repris toutes ses chansons merveilleuses, Ma Liberté, et tout ça. Et donc il nous a donné ses chansons, toutes ces belles chansons. Et pendant un an, on a eu un tour de chant de rêve. Et puis bon, après Reggiani a enregistré son album Moustaki, et là on est devenu immédiatement, qui sait, ces deux petits cons qui reprennent du Reggiani. Et donc on a dû se mettre à écrire.
Comment vous voyez cette époque avec le recul, Maxime Le Forestier? Plutôt de la nostalgie, des regrets?
Non, j'ai pas de nostalgie. La nostalgie, je l'aime quand elle est chantée par Souchon. Mais je n'aime pas en avoir. Je trouve que c'est chaque période de sa vie a son lot de joie et de tristesse.
Et pourtant, dans cet album, le dernier, celui qui vient tout juste de sortir, Paraître ou ne pas être, les musiques peuvent être joyeuses, les refrains contagieux, mais les textes, ils sont plutôt profonds, ça tourne autour du temps qui passe.
Forcément, quand on a passé un certain nombre de caps, c'est pas qu'on regarde en arrière, c'est qu'on se dit qu'est-ce qui me reste.
Et pourtant, vous avez fait ce disque, comme on le faisait à l'époque des années 70, avec une totale liberté, on entend les instruments, ce n'est pas surproduit, on n'a pas l'impression que vous soyez nombreux autour à jouer dans ce disque.
La base, c'est quatre musiciens, donc ouais. Deux guitares, Manu Galvin et Arthur, mon fils. Un percussionniste s'appelle Sébastien Quesada, que Caratini m'avait présenté. C'est un spécialiste des tambours bata, du vaudou, qu'il enseigne d'ailleurs au conservatoire de Gennevilliers. Mais bon, quand il joue avec moi, de temps en temps, il glisse une citation de tambour bata, mais c'est assez rare. Et un super contrebassiste que j'adore, qui est un type issu du classique, qui s'appelle Étienne Roumanet. Donc toutes les chansons, on les a enregistrées comme ça, sauf Paraître ou ne pas être. C'est le compositeur qui est venu jouer, Baptiste Trottignon. Et puis après, on a rajouté les chœurs et le violon dans Les Filles amoureuses, Fiona Mombay.
Mais diriez-vous, Maxime Le Forestier, que vous avez fait cet album comme vous avez fignolé votre premier album, Mon frère ou San Francisco? C'est de la même manière?
Pas tout à fait, parce que ça se rapprocherait plus du troisième de Caricature, le disque avec les dessins de Cabu, où là, Caratini, Le Doirin et moi, on s'est mis en studio, et je crois, trois heures plus tard, le disque était fait. Là, c'est quatre musiciens, un chanteur en studio. Je chantais, chaque fois qu'il y en avait un qui jouait, je chantais avec lui, parce que les musiciens jouent pas pareil quand le chanteur chante. Et puis, quand on était content, on passait à la suivante.
Et les paroles? Les paroles étaient écrites avant?
Les paroles, où j'ai commencé par ça, oui, bien sûr. Je me suis retiré à la campagne pendant un an et demi, pas par souci de retour à la terre, mais parce qu'on construisait une maison à côté de chez moi, à Paris, et que j'étais pas prêt pour la musique urbaine. Donc voilà, j'ai écrit un certain nombre de textes. J'ai toujours des musiques dans la tête quand j'écris des textes, mais quelquefois elles me plaisent pas. Donc quand elles me plaisent pas, je propose le texte à un compositeur sans lui dire que j'ai écrit quelque chose. Là, il y a Manu Galvin qui en a fait deux, Julien Clerc qui en a fait une, Baptiste Trottignon qui en a fait une, Arthur qui en a fait une. Ça, c'est pour les musiques. Ouais.
Parlez-nous de La Vieille Dame. Maxime Le Forestier.
La Vieille Dame, c'est une chanson que j'ai écrite pendant la campagne présidentielle.
La dernière, je suppose.
La dernière, oui, que j'ai tenu à enregistrer avant le premier tour pour voir si j'avais raison.
Et ça parle de quoi?
C'est une, on dirait une vieille dame. Ça parle de la France, l'ankylose. Ça parle d'une vieille dame qui a été riche, mais qu'il l'est moins, mais qui s'en est pas aperçu, qui a pas adapté son niveau de vie à sa nouvelle état. Maintenant, c'est plus un empire colonial. Hein. Mais c'est toujours, il y a toujours le doute. Est-ce que je parle d'une vieille dame ou est-ce que je parle de la France ?
On la connaît fine, fière, révolutionnaire. Quand elle allait les seins à l'air, terrasser l'oppresseur. Aujourd'hui morose en kilos, elle veut plus changer les choses. Elle a peur, peur de l'étranger, de l'étrange, peur de tout ce qui la dérange, peur des temps nouveaux, peur qu'un voyou la déleste des trois bijoux qui lui restent. On dirait une vieille dame, on l'a connue chic, chère, l'hiver à la montagne et l'été à la mer. Elle a eu des misères, elle a eu des malheurs. Aujourd'hui des bines, plus d'usine, remisez la limousine, le chauffeur. Alors elle regrette le passé, elle sait pas trop lequel c'est, le passé d'avant. Il y a des trous dans son histoire, il y a des trous dans sa mémoire. On dirait une vieille dame, une vieille dame. Aurait-elle, cette vieille personne, des talents cachés? Et tous les galants qui sonnent à sa porte, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Elle en laisse entrer un, elle les déteste tous, celui-là un peu moins. Au début tout va bien, suffit d'un mot qui blesse. Alors elle l'engueule, fait la gueule, dit qu'elle veut rester toute seule. Manifeste. Est-ce que c'est le pire des salauds ou bien juste un gigolo? Elle sait plus vraiment. C'est son éternelle jeunesse, la folie de temps en temps. Fait tanguer la vieille dame. Fait tanguer la vieille dame. La vieille dame.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Maxime Le Forestier ce matin. Et La vieille dame est un extrait de votre dernier album, Paraître ou ne pas être. C'est aussi quand même une manière aussi de voir le monde d'aujourd'hui. Vous qui avez tant marqué ces années où il était bon d'être de gauche, progressiste. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les idéaux de votre jeunesse, Maxime Le Forestier, malmené, méprisé, moqué des fois, vous vous dites quoi? Qu'on vit une sale période, que les temps ont drôlement bien changé
ou... Il n'y a pas que ça, non. Je me souviens que quand je chantais comme un arbre dans la ville... On se moquait des pacifistes bêlants et des écologistes. Maintenant, il y a des ministères pour ça et il y a des réunions internationales. Il y a eu du progrès quand même. C'est vrai qu'on voulait tous changer le monde et le monde a changé, pas tout à fait dans le sens qu'on voulait. Mais bon, ça rend philosophe.
Donc pas de regret de ce côté-là.
Ah non, pas de regret, non, non, non. Non, bah, de toute façon, qu'est-ce que je pouvais faire, hein, tout seul.
Mais il y a une forme d'engagement dans votre démarche artistique, Maxime Le Forestier, où c'est juste le public qui vous a associé peut-être un peu trop vite, à partir d'une chanson, à partir d'un hymne.
Il y a une chose qui a changé, qui est très importante, c'est les médias. Quand j'ai débuté, donc début des années 70, les médias étaient vraiment muselés. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne pouvaient passer que par des chansons ou des histoires drôles ou des choses comme ça qui ne seraient jamais passées dans cette maison, ni ailleurs, d'ailleurs. Ça a bougé.
Donc vous êtes un subversif tranquille, vous avez utilisé la chanson pour faire passer des messages.
Tout à fait.
Par exemple, dites-nous ça, Maxime Le Forestier.
Je me souviens d'une chanson qui s'appelait « Entre 14 et 40 ans ». Il y avait des étudiants qui allaient sur les... En 73, des étudiants qui allaient sur les pelouses du Jardin du Luxembourg pour faire tout ce qu'ils avaient à faire. Et ça ne plaisait pas aux sénateurs, qui ont donc fermé le jardin, mais ils ne pouvaient pas fermer le jardin aux enfants ni aux vieillards. Donc ils ont fermé le jardin aux gens qui avaient entre 14 et 40 ans. On vous demandait vos papiers avant d'entrer dans le jardin du Luxembourg. Ça, aucun journal n'en a parlé.
Et vous en avez fait une chanson?
Oui, oui, c'était drôle.
Et la chanson était explicite?
Ah oui, tout à fait, oui.
Vous avez chanté avant tout le monde la situation des sans-papiers, des réfugiés, des exilés. Maxime Le Forestier.
Vous parlez de Né quelque part.
Ben oui, et ça a été un tube commercial.
Ouais. Mais c'était pas comme ça que je l'avais prise. Au départ, c'était mon fils Philippe, mon fils aîné, avait 5-6 ans, il était à l'école primaire. Et il était dans une école où il y avait 18 nationalités différentes. Et son meilleur pote, il s'était Francis, et il était vietnamien, fils de boat people, qui des gens qui travaillaient dans le quartier, dans des restaurants. Mais il était né en France, Francis. Et oui, on est en 86. Il y a eu ce qu'on appelle les lois Pasqua, qui voulaient qu'un enfant de parents étrangers né en France ne soit pas français tout de suite, qui demande sa nationalité à 18 ans. Et on la lui donnait ou on la lui donnait pas, selon ce qu'il avait fait. Donc je m'étais dit, c'est quand même bizarre, ces deux gamins qui jouent ensemble dans la cour, qui vont avoir les mêmes profs, la même éducation, les mêmes filles. Ils vont peut-être voler le même scooter à 15 ans. Il y en a un qui se fera engueuler, soit par un flic, soit par un juge, soit par son père. Et puis un autre qui va se faire virer de son pays natal, qui est quand même, c'était chez les Grecs, c'était pire que la mort. Donc là, est-ce que les gens naissent égaux en droit? Ça m'est arrivé tout de suite.
À l'époque, ça avait créé un tollé. Aujourd'hui, ce genre de débat n'est plus d'actualité.
Bon, ça peut le redevenir. Ça peut le redevenir. La montée des nationalismes, parce que c'est mondial. Hein. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des gens qui veulent fermer les frontières. Donc ça reviendra. Ce qui est intéressant dans cette chanson, enfin pour moi, c'est qu'elle a été beaucoup traduite, mais toujours traduite dans des langues de pays pauvres. Elle a été traduite en malgache, en bambara, en kabyle, et bon, en espagnol aussi, mais elle n'a pas été traduite en anglais.
Maxime Le Forestier, c'est vrai que depuis le début, on vous associe à la nature.
À cause de mon nom, ça.
Oui, alors que vous êtes un Parisien né à Paris.
Ah, je suis né à Paris, je prends mon passeport pour passer le périph', et oui, j'ai toutes les caractéristiques de l'horrible Parisien.
Et cet album, il a été enregistré à Paris?
Il a été enregistré à Suresnes, oui, je devais prendre mon passeport pour aller au studio.
Paraître ou ne pas être, c'est une manière de parler de l'époque d'aujourd'hui?
Pas seulement, mais moi j'aime bien poser des questions dans les chansons. Est-ce que les gens naissent égaux? Enfin, je trouve que la forme interrogative est excellente pour les refrains. Bon, évidemment, ça se voit depuis Andy Warhol, quoi, depuis le quart d'heure de gloire que tout le monde cherche. Et là, ça devient particulièrement exagéré et un peu pathétique. Les gendarmes à la campagne, ils m'ont raconté qu'ils ont coincé une bande de cambrioleurs parce qu'ils se faisaient des selfies sur les lieux de leur cambriolage et ils les publiaient sur Instagram. Ça va jusque-là, quand même.
Et vous-même, ça vous a... manqué ces quelques années où vous n'étiez pas au-devant de la scène ou...
Non, j'avais d'autres problèmes d'une autre sorte et les problèmes professionnels étaient au second plan.
Chanter, retrouver la scène, ça va être pour la rentrée, Maxime Le Forestier?
Oui, je démarre fin septembre et puis, je n'ai pas le détail de la tournée, mais je sais que 14, 15, 16 novembre, je serai au Casio de Paris.
Et alors, comment on prépare une tournée? Parce que ces dates parisiennes annoncent une tournée.
Ah bah oui, bien sûr. Ben on fait trois listes. Une liste des chansons incontournables que les gens veulent entendre, et comme ils viennent pas, ils achètent pas des billets de concert pour se faire fouetter.
C'est quoi, San Francisco, mon frère, voilà, la maison bleue, être voilà,
comment on va les habiller, les colorer, où on va les mettre.
Non mais rassurez-moi, dites-moi que vous prenez toujours un plaisir fou à aller chanter sur scène ces chansons.
Toujours, oui. Oui, toujours. Une fois, j'ai voulu virer mon frère, parce qu'il y avait une suite harmonique dans le refrain qui me plaisait plus. Et ma femme m'a dit, si tu fais ça, je ne viens pas. Donc, j'ai appelé sa barre, j'ai dit, trouve-moi une solution pour qu'elle me plaise à nouveau. Et il a trouvé. Donc, une première liste avec les incontournables, la liste des nouvelles, et puis la liste des intermédiaires, des chansons que les gens connaissent moins, mais...
Et que vous aimez tout particulièrement.
Ou que j'aimerais ressusciter. Par exemple, j'ai passé un temps fou à essayer d'écrire une chanson pour Cabu. Parce que quand j'ai appris sa mort, j'ai vraiment pleuré. C'était un ami, c'était un... Puis en plus, il savait dessiner, moi je sais pas. Donc quand j'avais une idée de dessin, je l'appelais, et il me faisait mon dessin. Et j'ai rien trouvé, et puis à un moment, c'est mon fils qui m'a dit « Mais attends, tu l'as écrite il y a 40 ans, cette chanson, elle s'appelle Caricature. » Et c'est vrai que j'avais écrit ça pour Cabu, vivant. Mais la chanson se termine quand même... Notre vie se passe au crayon, notre vie s'efface au canon.
Dernier soleil avant l'hiver, j'aurais bronzé nu comme un ver, avec une créature de rêve, j'aurais refait Adam et Ève. Si quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier, le dernier. Si quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier, et la dernière fois qu'on s'est parlé, quand on a bu un dernier verre, sans hésiter, j'aurais passé à le vider la nuit entière. Quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier. Si quelqu'un m'avait signalé que c'était le dernier.
Vous êtes en forme, Maxime Le Forestier, malgré la gravité du propos dans cette chanson, Dernier Soleil.
Je l'ai adouci beaucoup. Hein, le texte sur lequel Julien a fait la musique, il était beaucoup plus triste que ça. Non, ça arrive hein, de penser à la mort, bien sûr.
Vous êtes un grand lecteur, Maxime Le Forestier.
Non, non.
Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous donne des idées? Ce que vous voyez?
Mes rêveries, oui. Je suis capable de...
Vous vous souvenez de vos rêves? Quelle chance.
Mes rêves éveillés. C'est Souchon qui avait dit un jour, les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse passer trois jours à regarder une porte. Et c'est vrai qu'en regardant un arbre ou une porte ou n'importe quoi, il arrive des trucs et puis de temps en temps je note.
Ça a été un plaisir de vous avoir, Maxime Le Forestier, ce matin. Paraître ou ne pas être, c'est le titre de votre dernier album. Il vient tout juste de sortir.
Merci à vous.
Vous pouvez maintenant réécouter cette émission ou partager le podcast disponible sur franceculture.fr. Émission préparée avec Maël Ray et Corinne Amar, réalisée par Lionel Quentin avec ce matin à la technique, Pierre Monteil. On se retrouve demain. Bonne journée sur France Culture.
L'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Amazonie, le chaman et la pensée de la forêt. Expression de la symbiose avec le monde de la forêt et des esprits, l'exposition aborde la pratique du chamanisme et la sauvegarde des cultures amérindiennes. Découvrez les parures, armes et instruments de musique des populations amazoniennes. Films, photographies et installations sonores compléteront le parcours pour une expérience en immersion dans la forêt. Amazonie, le chaman et la pensée de la forêt, du 15 juin au 19 janvier au château des Ducs de Bretagne à Nantes, un partenariat France Culture. On a tous en nous quelque chose de Michael Jackson. The Man in the Mirror dans le feuilleton. Comment s'est écrit le mythe Michael Jackson? Quelles sont les multiples voix qui l'ont raconté? Grandeur et décadence du king de la pop, musical et polyphonique, The Man in the Mirror, le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Édouard Philippe déclare l'urgence pour l'acte 2 du quinquennat. Il a obtenu hier la confiance des députés. Écologie, fiscalité, PMA, nous reviendrons sur le discours du Premier ministre. Nous nous intéresserons aussi au référendum d'initiative partagée. Il est lancé aujourd'hui sur Internet et concerne la privatisation d'Aéroports de Paris. Encore faut-il que les Français en soient informés, précise un député spécialiste de la démocratie participative. En Algérie, l'ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika a été arrêté hier. Une vaste affaire de corruption, nous irons à Alger. Et puis nous irons à Moscou, qui fournit de nouveau une partie de l'Europe en pétrole grâce à un oléoduc. Il avait été coupé pendant un temps, engendrant des frais. Se pose maintenant la question du remboursement. Sans surprise, l'Assemblée nationale a donc voté la confiance à Édouard Philippe et son gouvernement hier, à une large majorité, 363 voix pour, 163 contre. Dans le détail, la majorité LREM Modem a approuvé la politique de l'exécutif. En revanche, du côté des votes contre, on retrouve la gauche unanime, le Rassemblement national, ainsi que 81 des 104 députés Les Républicains, soit 58 de plus que lors du vote de 2017. Avant ce vote de confiance hier, le Premier ministre avait fait un discours de politique générale pendant près d'une heure, avec notamment un maître mot, l'urgence, et notamment l'urgence écologique, Rosalie Lafarge.
Édouard Philippe n'est pas un écolo de la première heure et il le reconnaît, mais il l'assure, ça y est, il s'est converti.
Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes.
Ça passe par une accélération du rythme des réformes en la matière. Une loi anti-gaspillage est par exemple promise pour septembre. Mais ce que le gouvernement appelle l'acte 2, c'est aussi toujours beaucoup d'économies. Reçu 5 sur 5, le message d'exaspération fiscale des Français, clame Édouard Philippe à la tribune, baisse d'impôts à la clé. Sur les retraites, il confirme ce qui était annoncé, les mêmes règles pour tous, mais encore avec cette ambiguïté sur l'âge de départ.
Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps.
Les applaudissements de la majorité se feront plus francs au moment de l'annonce sur la PMA, mise au programme du Parlement fin septembre. Peu de réactions en revanche quand Édouard Philippe ouvre la porte à un report de la réforme des institutions après les sénatoriales. Enfin, le Premier ministre insiste sur un point, le nécessaire changement de ton et de façon de faire du politique.
Le sentiment d'urgence nous a parfois conduit à prendre des décisions rapides, pas assez concertées. Nous sommes et nous demeurerons des réformateurs. Mais nous devons davantage associer les Français à la fabrique de nos décisions.
L'opposition critique dénonce globalement un recyclage de mesures déjà annoncées et rien de concret sur la façon de les financer.
Édouard Philippe sera ce matin devant le Sénat pour le même exercice. Alors hier, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le Premier ministre n'a pas évoqué directement le référendum d'initiative partagée, se contentant de vanter la démocratie participative. Aujourd'hui pourtant, la proposition d'un RIP sur la privatisation d'Aéroports de Paris, cette proposition est mise en ligne sur Internet. Elle est lancée par le Parti Socialiste, soutenu par les Insoumis, les Communistes et la droite, les Républicains. Ils doivent récolter les signatures d'au moins 10% du corps électoral pour ensuite pouvoir organiser un RIP. Christian Pancher est spécialiste de la démocratie participative. Il est député Liberté et Territoire, c'est-à-dire au centre-gauche. Il veut s'assurer qu'il y aura de véritables moyens pour que les Français soient bien informés de cette procédure.
C'est un premier exercice démocratique unique dans notre pays. Donc moi je pense qu'il faut qu'on comprenne quels ont été les moyens qui ont été mobilisés sur d'autres grandes consultations et qu'on regarde quelles contributions on peut mettre pour cet appel à nos concitoyens. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse un parallélisme notamment entre les moyens qui ont été accordés pour ce grand débat, qui n'a pas été un grand débat, qui a été une grande consultation suite aux Gilets jaunes. Donc on veut, nous, on veut savoir réellement quels moyens financiers on va pouvoir mettre en œuvre pour communiquer, quelle est la stratégie de communication, quelle est la stratégie d'accompagnement. Bon, on a quand même besoin d'un minimum de moyens pour faire en sorte que cette consultation de nos concitoyens réussisse.
Des propos recueillis par Anne Fauquemberg. Le site pour se prononcer sur ce référendum d'initiative partagée est le suivant: www.referendum.intérieur.gouv.fr. C'est aujourd'hui que le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance pourrait connaître son épilogue. Après l'examen du texte à l'Assemblée puis au Sénat, une commission mixte paritaire doit trancher ce jeudi sur les points de désaccord et livrer ainsi une version définitive du texte. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre la corruption en Algérie. Hier, l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia a été mis en détention provisoire sur décision de la Cour suprême. Cette Cour a prévu d'auditionner 11 anciens responsables de l'époque Bouteflika, président déchu depuis début avril, je vous le rappelle. La haute cour du pays en Algérie commence donc par l'ancien Premier ministre Leïla Berhatou.
Le 22 février, alors que la contestation commence, il est encore Premier ministre et met en garde contre la possibilité de chaos que peuvent créer des manifestations. Ahmed Ouyahia lance, en Syrie aussi, ça a commencé avec des fleurs. Ce mercredi, ce proche d'Abdelaziz Bouteflika, à la tête du gouvernement algérien à plusieurs reprises, comparaissait devant la Cour suprême, une juridiction spéciale car l'enquête en cours pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'un du privilège concerne la période où il était Premier ministre. Dans l'après-midi, la Cour suprême décide de son placement en détention provisoire à la prison de El Harach. Le convoi qui emmène l'ancien Premier ministre au centre pénitentiaire est poursuivi par plusieurs dizaines de personnes qui accusent les autorités d'avoir pillé l'argent du pays. En fin de journée, un autre proche de l'ancien président a, lui, été placé sous contrôle judiciaire par la Cour suprême. Abdelrani Zalane, ancien ministre, avait notamment été le directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika au début de l'année. Les arrestations pour des soupçons de corruption ont commencé au mois d'avril et pourraient toucher d'autres responsables. Ce jeudi, deux autres personnalités doivent être entendues par la Cour dans la même affaire, dont l'ancien Premier ministre et également directeur de campagne d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelmalek Selal.
Au Maroc, le procès des accusés du double meurtre des touristes scandinaves va reprendre ce jeudi. Les deux jeunes danoises et norvégiennes avaient été assassinées au nom du groupe État islamique en décembre dernier. C'était à Imlil, à quelques kilomètres de Marrakech, dans le Haut Atlas. Ce matin, donc, au Maroc, les 24 accusés passent devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat pour une quatrième audience. Théa Olivier.
Lors de la dernière audience, le 31 mai, le principal suspect est passé aux aveux. Ce marchand ambulant de 25 ans a reconnu et regretté avoir décapité l'une des randonneuses au nom du groupe État islamique. C'est également lui qui a diffusé la vidéo de décapitation dès le lendemain matin. Les 24 suspects, dont les 3 meurtriers présumés, sont accusés d'apologie du terrorisme, d'atteinte à la vie de personnes avec préméditation ou de constitution de bande terroriste. Ceux qui sont impliqués directement risquent la peine de mort, qui n'est plus appliquée au Maroc depuis 25 ans. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir créé une cellule terroriste à Marrakech qui prêtait allégeance au groupe État islamique sans avoir de contact direct en Irak ou en Syrie. L'organisation terroriste n'a pourtant jamais revendiqué leurs actes. Seul étranger du groupe, Kevin, est de nationalité hispano-suisse. Il est soupçonné d'avoir appris aux principaux suspects à tirer, à utiliser une messagerie cryptée et d'avoir participé à l'embrigadement de recrues. Devant le juge d'instruction antiterroriste, il a clamé son innocence. La première audience avait été reportée début mai. Lors de la deuxième, les parents de la jeune Danoise se sont constitués partie civile. Ils ont demandé que la responsabilité morale de l'État marocain soit engagée. Ce matin, d'autres suspects devraient être entendus lors d'interrogatoires.
Théa Olivier à Rabat pour France Culture. Les États-Unis nomment un émissaire pour le Soudan, où les pourparlers doivent reprendre entre militaires et contestataires. L'ancien diplomate Donald Booth est chargé de trouver une solution politique et pacifique. Après plusieurs jours de rupture de livraison, le pétrole russe coule de nouveau vers l'Europe centrale via les différentes branches de l'oléoduc de l'Amitié. Cet oléoduc avait été coupé après un empoisonnement par une substance chlorée. Reste maintenant à savoir qui va s'occuper des remboursements des dommages causés et des risques de récidive, Claude Bruyot.
L'accident industriel a laissé des traces. Transneft, le fournisseur russe de la Pologne, de l'Allemagne et d'autres pays européens, doit bien sûr compenser la rupture des livraisons, mais il doit aussi revoir sa gestion des risques, car ce qui est arrivé une fois peut se reproduire. Mikhail Krutihin, membre de Rus Energy, conseille dans le secteur des hydrocarbures à Moscou.
Il y a toujours des risques, car c'est un système très sophistiqué. Maintenant, d'après ce que promet Transneft, le contrôle du pétrole qui provient d'exportation sera plus strict. Avant, ils devaient contrôler tous les 10 jours, et peut-être qu'ils ne respectaient pas ça. Maintenant, ils disent qu'ils veulent surveiller la qualité de ce pétrole presque tous les jours.
Les raffineries d'Europe centrale non concernées par cet empoisonnement du pétrole russe ont pu compenser en augmentant leur production. Mais si la rupture de livraison avait duré plus longtemps, la pénurie n'était plus très loin. Résultat, aujourd'hui, les fournisseurs russes savent qu'ils ont d'autant moins le droit à l'erreur qu'ils n'ont jamais réellement communiqué ni sur les origines de la contamination, ni sur les quantités réellement touchées.
Le temps prévu en France ce jeudi, ensoleillé au sud et sur l'est, encore un peu instable sur le nord-ouest avec de faibles averses et peu de changements côté température. Comptez toujours 13 degrés ce matin à Brest, 15 à Lille et Paris, 16 à La Rochelle, 22 à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
À 6h40 sur France Culture, c'est votre journal des idées qui débute. Et vous vous penchez ce matin, Jacques, sur la dernière édition de l'enquête internationale European Value Study sur les valeurs partagées ou défendues. Cette dernière édition est publiée. Réalisée dans 38 pays européens, elle comporte un volet français, Jacques.
Oui. D'ailleurs, l'ouvrage est publié aux presses universitaires de Grenoble sous le titre « La France des valeurs, 40 ans d'évolution ». Il étudie donc les valeurs de nos compatriotes dans toutes sortes de domaines, famille, sexualité, travail, politique, religion, environnement et la façon dont elles ont évolué donc en 40 ans. Dans les pages idées de l'Obs, trois des chercheurs qui l'ont conduite, cette enquête donc en résume les grandes lignes. Et tout d'abord pour Frédéric Gontier, un mouvement de fond, l'individualisation des valeurs. Chacun veut désormais affirmer ses choix de façon personnelle et sans forcément se conformer aux injonctions d'autorité traditionnelles comme l'Église, les normes sociales ou les partis politiques. Et depuis les années 1990, le respect des autres et la tolérance arrivent en tête des valeurs que les parents veulent inculquer à leurs enfants. Ce qui a une traduction concrète, après avoir diminué, le noyau franchement hostile aux étrangers a progressé entre 2008 et 2018, mais dans le même temps, la proportion de ceux qui sont attentifs à la condition des immigrés augmente également. Elle représente plus d'un tiers des Français. Même avec le climat anxiogène lié aux attentats et l'afflux de réfugiés venant de zones de guerre entre 2013 et 2016, qui pouvait laisser présager une montée en flèche du racisme, c'est le contraire qui s'est produit. La tolérance vis-à-vis des minorités, dont les musulmans, a progressé, montrant que les Français ne faisaient pas l'amalgame entre islam commis au nom du djihad et attentat. Vincent Tibéry ajoute que même l'idée d'une préférence nationale à l'emploi perd du terrain. 61% des Français y étaient favorables en 1990, ils ne sont plus que 42%. Plus on est diplômé, plus on est jeune et plus on est athée, moins l'on rejette les autres groupes ou nationalités. L'individualisme au sens émancipateur se retrouve dans les comportements politiques. L'abstention ne traduit pas forcément un moindre intérêt pour la politique. Pierre Bréchon estime que le sens du vote a changé. On accomplissait autrefois son devoir électoral sans forcément bien savoir quel sens donner à son vote. Aujourd'hui, le citoyen s'exprime dans les urnes s'il trouve pour cela des raisons importantes, parce qu'il veut soutenir ou sanctionner un camp. Quant à l'individualisme assumé des plus jeunes, Frédéric Gontier montre qu'il n'empêche pas de se sentir concerné par les conditions de vie de ses voisins, concitoyens, personnes âgées, des malades, des chômeurs ou des immigrés, et ce, malgré la crise. Non seulement le souci des autres a bien résisté, mais c'est parmi les jeunes générations que l'altruisme social a le plus augmenté, alors même qu'elles sont les plus exposées à la crise. La revue Oui Demain publie les portraits de 25 jeunes activistes qui bousculent le vieux monde. Parmi eux, Marie Flynn, 22 ans, secouriste sur l'Aquarius. Depuis qu'à l'âge de 17 ans, elle est confrontée sur l'île de Lesbos à des réfugiés terrorisés dans un canot pneumatique en perdition, ou bien Mohamed Al-Joundé, réfugié au Liban à l'âge de 12 ans en 2013, alors que sa mère a été arrêtée deux fois et menacée de mort en Syrie. Dans le camp de réfugiés, il a créé une école où chacun partage ses compétences et où il enseigne lui-même l'anglais, les maths et la photographie. A signalé dans ce numéro le grand entretien avec Raoul Van Eghem, figure de proue du mouvement situationniste, 85 ans et toutes ses dents, le combat du cœur contre l'esprit du tiroir-caisse. L'auteur du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations s'est toujours fait rare dans les médias et cette intervention est en soi un petit événement. La dernière livraison de la revue Dégénération propose un dossier sur le thème de l'hospitalité avec notamment la contribution de Georges Didi Huberman qui revient sur le séminaire de Jacques Derrida consacré à cette question. Une subtile et forte méditation sur le vivre ensemble et le rapport à l'autre. Le philosophe évoque le souvenir de son exclusion de l'école en 1942 en Algérie après le décret de Vichy sur le numerus clausus contre les enfants juifs et aussi à propos du délit de solidarité contre ceux qui accueillent aujourd'hui les migrants. Le souci innocent de compassion en tant qu'il constituerait un mode fondamental du vivre ensemble quand la justice à la fois excède et réclame le droit. La chronique de Frédéric Boyer dans La Croix porte sur nos conflits et désaccords, les cicatrices qu'ils peuvent laisser. Nous aimons ça, les disputes, mais la question vitale est peut-être moins dans le conflit lui-même que d'apprendre à vivre après le conflit, avec ce que le conflit a pu toucher de plus fort, de plus intime entre nous. Et l'écrivain de conclure, on s'obstine à vouloir atteindre un accord à tout prix, plutôt que de passer par l'épreuve d'avoir non seulement à penser le désaccord, mais aussi cette expérience humaine qui traverse toute communauté. Imaginez vivre ensemble après le désaccord. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous. Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, cette question à propos du Brésil, justice, économie, société, quel est le talon d'Achille de Bolsonaro?
Eh bien on va voir ça avec un président Bolsonaro qui est en difficulté sur au moins deux fronts judiciaires avec ce scandale de partialité de son ministre de la Justice dans le jugement de l'ancien président Lula et puis difficulté sociale avec un appel à la grève générale, nouvelle manifestation demain contre la réforme des retraites qui est importante. Alors quelle marge de manœuvre? Elle se réduit sans doute. On voit ça avec vous, Maud Chirio, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes historienne, maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, auteur de La politique en uniforme, l'expérience brésilienne 1960-1980. Cette fois, on commence avec le scandale politico-judiciaire, hein, des révélations qui tendraient à montrer l'influence qu'aurait eu l'actuel ministre de la Justice, Sergio Moro, sur l'emprisonnement de Lula. Moro, le juge qui était l'homme de l'enquête Lavajato, en quelque sorte médaille anticorruption de Bolsonaro. En ce sens, est-ce que ce scandale, c'est un bouleversement politique potentiel de la donne et très important?
Alors, le contenu du scandale, en fait, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est des choses que tout le monde savait relativement déjà. C'est-à-dire que le juge Moro a acquis des pouvoirs qui étaient complètement inédits et qu'il n'était plus en position de juge naturel. C'est d'ailleurs ce qu'il a héroïsé sur la scène publique brésilienne. Et que de nombreux problèmes s'étaient posés dans la lavajate et en particulier des problèmes de solidité des preuves autour de Lula. Donc c'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent en fait l'actualité brésilienne. La question est de savoir à quel point ça va avoir un potentiel de déstabilisation pour le pouvoir, puisque c'est quelque chose qu'on voit peu de l'extérieur, c'est la couverture presse au Brésil, qui n'a absolument rien à voir avec la couverture presse à l'étranger. Il y a très peu de couverture presse, il n'y a pas de visibilité dans les médias audiovisuels, par exemple. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas un scandale au Brésil, mais à l'échelle de ce qu'on voit de l'extérieur.
Même s'il y a eu des pressions dans la presse, justement, ou en tout cas une certaine presse pour la démission de Moro, hein, c'est O Estado de São Paulo qui dit « Si Sergio Moro continue à dire que c'est normal, comme il l'a fait, il ferait bien de démissionner. » Alors, pour lui, on verra bien s'il démissionne, mais pour Bolsonaro, d'abord, c'est quand même un désaveu, vous allez nous dire ou pas, mais est-ce qu'il n'est pas coincé parce qu'il a laissé ou bien laissé entrer un mouton noir dans le système judiciaire ou bien favorisé un détracteur du président Lula quand même?
Alors, favoriseur des créateurs du président Lula, c'est pas du tout une nouveauté, puisque le juge Moreau était officiellement intégré dans les cercles de droite, puis d'extrême droite. Donc, sa partialité personnelle, elle était connue. Par contre, ce qui était une question, c'était ça, le fait que il a pu jouer un rôle moteur dans un système. C'est pas un mouton noir. Ce que montrent les communications qui ont été révélées, c'est des contacts interdits entre Moreau et l'ensemble des autres acteurs du système. Et ce qui est très compliqué, et ce qui va créer un rapport de force très compliqué, c'est que c'est pas la question du procès Lula, c'est toute la lavajate dont le système ne correspond pas à la constitution brésilienne, puisque les procureurs auraient travaillé main dans la main avec l'instruction, qui est instruction et le jugement final. Et donc, le rapport de force, il est énorme, parce que si Moreau tombe, c'est le discrédit d'une partie de la lavajate, et donc il y a un rapport de force. Et vous dites très justement que un des grands quotidiens conservateurs a commencé à essayer de considérer Moreau comme un fusible, sauf que le problème, c'est que il y a un rapport de force au sein de la des grandes forces de droite, puisque au même moment, l'ancien commandant en chef des forces armées, par exemple, a dit que si Moreau était discrédité, si Moreau était attaqué, les forces armées le défendraient. Donc, on n'est pas du tout dans dans une logique là actuellement où il est on peut prévoir que Moreau va être lâché. On est dans une logique où, à l'intérieur des forces qui ont soutenu le gouvernement et le processus politique depuis 2 ans au Brésil, des tensions apparaissent et on ne sait pas exactement comment elles vont se solder. Oui. Le fait que la Cour suprême n'ait pas jugé comme prévu lundi l'habeas corpus de Lula, alors que elle l'a annoncé en toute urgence, puis l'a reporté pour 15 jours, montre que il est en train de se passer des rapports de port de force dont on ne sait pas exactement quelle va être l'issue.
Précisément, la Cour suprême va réexaminer le 25 juin le recours, je crois, en partialité des défenseurs de Lula contre Moreau. Peut-être la libération de Lula en perspective. De ce point de vue-là, est-ce que c'est pas le plus gros coup pour les conservateurs et pour le parti social-libéral de Bolsonaro, c'est-à-dire Lula libéré et le parti travailliste revivifié en quelque sorte?
Alors, Lula n'est pas du tout libéré. Justement, le report de 15 jours mène à ce que la session soit présidée par une juge qui est beaucoup plus conservatrice que le juge qui était censé la présider il y a 3 jours. Donc, ce report est plutôt le signe d'une victoire des plus hostiles à toute forme d'annulation du procès au sein de la Cour suprême et permet également à ce que les acteurs de la lavajate et une partie des acteurs politiques se réorganisent pour empêcher que Lula soit libéré. Parce que la libération de Lula, ce serait une catastrophe politique quand même pour le gouvernement qui a beaucoup de problèmes, comme on en parlera peut-être, mais qui n'affronte pas une véritable opposition politique. Il n'y a pas d'opposition actuellement au gouvernement Bolsonaro. Il y a un gouvernement Bolsonaro qui a plein de problèmes et des secteurs de centre et de gauche qui n'arrivent pas à se réarticuler. La possibilité d'une libération de Lula serait un atout pour la réorganisation de la gauche, probablement.
Et alors justement, vous parlez des problèmes et quelle marge de manœuvre politique pour ces problèmes, notamment il y a deux réformes importantes, des manifestations massives qui ont concerné une réforme de l'éducation et puis une réforme des retraites qui est un peu la mère de toutes les réformes, on pourrait dire, pour Bolsonaro, parce que là aussi, il met en jeu une grande promesse de son programme de libéralisation et d'assainissement financier, et il met en jeu son ministre des Finances, Guedes, là aussi.
Oui, bien sûr. Alors, c'est le deuxième élément qui est un élément de fond, hein, puisque la protestation contre les réformes des retraites, elle a maintenant presque un mois et demi, hein, et les manifestations sont de plus en plus importantes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui handicape un des éléments du projet de Bolsonaro, qui est la libéralisation, qui n'est pas le seul élément, hein, puisque Bolsonaro, c'est pas Guedes. Bolsonaro a été porté par un projet de libéralisation, mais aussi porté par tout un tas d'agendas ultra-conservateurs sur la question des minorités, sur la question des femmes, sur la question des armes. Donc, lui-même, Bolsonaro, ne met pas tout son projet dans le même objectif. Est-ce que les manifestations vont empêcher la réforme des retraites? Certainement pas seules, mais associées au fait que, en fait, Bolsonaro, c'est pas une coalition cohérente. Il n'a pas de coalition au Congrès en particulier. Il a un parti qui a 52 élus au Parlement et il n'a pas vraiment réussi à créer de coalition. Pour l'instant, la réforme des retraites, elle est essentiellement bloquée au Parlement parce que Bolsonaro n'a pas la pratique politique et les ressources pour négocier des coalitions qui sont absolument centrales dans le système politique brésilien, qu'il n'a pour l'instant pas réussi à constituer. Et pour l'instant, un certain nombre de grandes réformes de libéralisation n'avancent pas parce que Bolsonaro n'a pas la force politique. et pas la croissance économique aussi, hein, bien sûr, pour créer un consensus sur ce point au Congrès.
Et alors ?
Effectivement, oui, pardon.
Non, mais justement, est-ce que c'est pas là le point crucial ? Vous le soulignez, en ce sens, comme le disait un analyste, Bolsonaro a les défauts de Trump sans avoir ses réussites économiques. Il a mobilisé des manifestations pour enjoindre en quelque sorte le Parlement d'aller plus vite sur la réforme des retraites. Ça a provoqué des réactions dans son camp qui lui ont dit de modérer un peu, ses ardeurs. Est-ce que c'est pas là le plus grand risque de s'aliéner une partie des conservateurs ?
Alors, les manifestations en son appui ont été en fait assez faibles. Hein. On a d'ailleurs eu aucun chiffre, aucun journal n'a prétendu donner des chiffres, ce qui est le signe de manifestations qui étaient des manifestations un peu ratées. Il perd des soutiens populaires hein, parce qu'il est illisible, parce qu'il est en conflit permanent interne à son entre les militaires, entre les idéologues, entre les religieux en son sein. Donc c'est un gouvernement dont la popularité s'est déjà effondrée en fait. C'est pas le tournant n'est pas maintenant. Il a une popularité qui s'est effondrée depuis déjà 2 ou 3 mois. Mais le problème c'est que le problème ou en tout cas la politique du gouvernement avance malgré le fait que certaines grosses clés de voûte comme la réforme des retraites pour l'instant n'a pas été mise en œuvre. Il y a plus de code du travail par exemple au Brésil. Il a été abrogé. 90% des dispositions du code du travail ont été abrogées par décret. Il y a plus de code des forêts. Le code des forêts a été complètement remanié pour permettre une explosion de la déforestation. Il y a plus d'inspections pour limiter l'esclavage moderne. Donc il y a tout un tas de choses qu'on voit pas forcément de l'extérieur parce que nous on pense réforme des retraites. Ça nous évoque un certain nombre de grands débats européens. Mais la machine de guerre du fait de l'absence d'une véritable opposition et d'une pour l'instant de on peut pas dire que le peuple brésilien est dans la rue, peut-être qu'il va y aller, mais c'est pas quelque chose qui est si classique en fait d'avoir une grève générale massive. C'est nouveau dans la culture politique brésilienne et on est en train d'assister à déjà le démantèlement extrêmement violent de ce qu'il y avait d'état social au Brésil, c'est-à-dire pas grand-chose, et sur des questions de déforestation, des choses absolument tragiques. Hein. Il est déjà en train de se passer une augmentation multipliée par 6 hein, depuis le début janvier de la déforestation par rapport à un des niveaux qui était déjà très haut.
C'est dit, on suivra la manifestation demain en tout cas. Merci beaucoup Maud Chériot, historienne et maître de conférence à l'université Paris-Est.
Merci à vous.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
La messe glagolitique de Jan Hatzek, le jeudi 20 juin à 20h à l'Auditorium de Radio France. Yuka Pekka Saraste dirige l'Orchestre National de France et le Chœur de Radio France dans la messe glagolitique composée pour grand orchestre, orgue, chœur et 4 solistes. Mélodies envoûtantes, rythmes sauvages, force vitale, timbres acidulés, douceur surprenante, entrez au cœur du concert. Renseignements et réservations maisondelaradio.fr.
France Culture présente Zombie Child de Bertrand Bonello. Au pensionnat de la Légion d'honneur, Mélissa confie à ses camarades le secret qui hante sa famille.
Pour faire partie de la sororité, tu dois nous raconter quelque chose d'hyper personnel, tu vois. Mon grand-père est mort en 1962, qu'il a été victime de zombification.
Elle est loin de se douter que ces mystères vont pousser l'une de ses amies à commettre l'irréparable. Présenté lors de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, Zombie Child de Bertrand Bonello, actuellement au cinéma. Un film France Culture.
6h57 sur France Culture, on sort de la zombification pour les matins de Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Mais absolument, bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors par contre, le dessin de presse a connu des jours meilleurs.
Deux informations consécutives. Mardi, l'annonce faite par le New York Times qu'il renonçait aux caricatures politiques de presse. Mercredi, le énième bad buzz, vous savez, mauvais tumulte. Causé par la une de Charlie Hebdo, alors le New York Times renonce aux caricatures politiques suite à une couverture de Netanyahou considéré comme antisémite, un chien guidant un Donald Trump aveugle, mais une information en cachant une autre, le New York Times se contente en fait d'aligner son édition internationale sur l'édition domestique où il n'y a plus de caricatures politiques depuis des mois. Quant à Charlie Hebdo, sa une consacrée au football pratiqué par des femmes a été jugée de fort mauvais goût. Elle arborait un sexe féminin et un ballon. Le reste, je vous laisse d'imaginer. Alors cette une était effectivement de mauvais goût, comme l'a toujours fait Charlie, je le dis avec d'autant plus de facilité que je collabore à ce magazine. On est à chaque fois d'ailleurs surpris de ces polémiques qui découvrent que Charlie est un journal bête et méchant, comme on disait jadis. C'est là sa raison d'être, le reste de la presse étant évidemment intelligent et gentil. Alors reste à comprendre pourquoi le dessin de presse passe si mal. Le New York Times n'a évidemment pas renoncé aux caricatures de presse pour éviter les caricatures racistes, parce que s'il ne s'agissait que de cela, il y avait des méthodes quand même plus simples et plus efficaces. Et puis, l'édition américaine, encore une fois, du New York Times n'aurait pas renoncé à titre préventif à publier des caricatures un an auparavant. En fait, ce qui a tout changé, c'est Internet, et plus précisément le fait que les caricatures de presse sont désormais vues par des personnes qui n'ont pas de contrat de lecture avec les titres en question. Le contrat de lecture est ce lien implicite qui fait que vous savez décrypter un dessin, en l'occurrence pour Charlie, que le dessin de presse est une forme de citation. On ne se moque pas des femmes dans le foot, mais de ceux qui se moquent des femmes dans le foot, ou de ceux qui considèrent qu'il ne faut pas se moquer des femmes dans le foot parce que ce sont des femmes. Bref, le tout étant ambigu, évidemment, puisque l'ambiguïté fait partie du dessin de presse. Mais voilà, ces nuances deviennent aujourd'hui difficiles à faire passer, si bien qu'un jour on dira peut-être « tu comprends » ou « je ne te fais pas un dessin ».
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Un discours de politique. Général Édouard Philippe a prononcé hier à l'Assemblée nationale sa deuxième déclaration de politique générale pour ce qui doit marquer, selon ses vœux, le point de départ de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Que faut-il retenir des annonces qui ont été faites hier? On en parle dans les matins en compagnie tout d'abord d'un philosophe, Pierre-Henri Tavoyau, et d'une politiste, Agathe Cagé. En attendant, il est 7h et je vous souhaite un très bon réveil sur France Culture.